Les As de la CoPro, 1000 millième.
Alors, dans 1000 millième aujourd'hui, je reçois un invité, un syndic, de temps en temps j'en invite un quand même, André Péricel. Bonjour André.
Bonjour Gilles.
Alors André Péricel, vous êtes syndic, agence étoile, à Paris, Aix-en-Provence et Marseille, donc vous occupez bien le territoire, et vous êtes également secrétaire général de l'Institut Janus, et on va parler aujourd'hui de l'Institut Janus et du livre blanc qu'il vient de sortir. Alors, tout de suite, est-ce que vous pouvez nous dire un mot, une présentation de cet institut Janus, c'est un think tank immobilier, pour nos auditeurs?
Alors, l'Institut Janus, effectivement, c'est un centre, un cercle de réflexion sur le logement et l'immobilier. C'est un cercle multidisciplinaire. Nous accueillons évidemment des syndics, des administrateurs de biens, des agents immobiliers, mais aussi des promoteurs, des notaires, des diagnostiqueurs, j'espère que je ne vais pas en oublier, des géomètres, toutes les professions qui tournent autour de l'immobilier et du logement. Et l'Institut a été créé il y a 2 ans. Et je pense qu'on a créé cet institut avec le président Michel Platero en réaction avec la crise du logement qui perdure depuis le mois de juillet 2022. Et donc l'idée, c'est de faire des propositions, des tribunes, de réfléchir pour améliorer la condition du logement de nos concitoyens. Les locataires souffrent, on a du mal à trouver du logement, les investisseurs ont du mal à rentabiliser leur patrimoine. Donc voilà, on essaie de faire des propositions.
D'apporter des idées. Il y a combien de membres aujourd'hui ?
On a 120 membres et on organise chaque trimestre des dîners avec des personnalités politiques. On a eu même Létard, M. Kasparian, M. Cos.
M. Jeanbrun, le ministre, je crois.
Le prochain dîner, c'est le ministre du Logement, M. Jeanbrun.
Très bien. Et donc, vous produisez.
On produit. L'an dernier, nous avons produit le pacte locatif citoyen. C'est des propositions.
Un livre blanc, déjà, c'était le premier ?
Alors, le livre blanc de la copropriété, c'est le deuxième. Le premier, c'était le pacte locatif citoyen. Alors, statut du bailleur privé, parce que le statut du bailleur privé, on en parle beaucoup, mais actuellement, ça s'est dénaturalisé en dispositif fiscal de défiscalisation. Le pacte locatif citoyen, ça va plus loin. Il y a l'aspect fiscal, mais aussi il y a l'aspect de rééquilibrer les rapports entre les locataires et les bailleurs. Un certain nombre de propositions pour améliorer l'investissement locatif et pour inciter les propriétaires à investir, parce que le logement...
À investir ou à remettre leur logement en location.
Donc il y a aussi la question des interdictions de louer, de l'encadrement des loyers, etc. On est pour une politique plus libérale en la matière.
D'accord, donc ça bouge, c'est un think tank, donc c'est du lobbying politique, avec de l'apport d'idées qui sont partagées aussi avec d'autres organisations. On va le voir dans ce livre blanc que vous venez de sortir. Alors je le mets à l'antenne, on va en parler, parce que bon, je suis syndic, donc forcément je m'intéresse un peu à la copropriété. Le livre, je fais mon Laurent Ruquier, comme ça je mets normalement le visage. Proposition pour simplifier le droit et moderniser la gouvernance. Alors, pourquoi ce livre ?
Alors pourquoi ce livre ? Je dirais qu'au départ, il y a eu un empilement de réglementations. On a eu la loi Allure, on a eu la loi Elan, on a la loi Climat et Résilience. Ça devient assez compliqué de s'y retrouver. Il n'y a pas eu de vision, à part des visions politiques, je dirais, un peu intégristes, il n'y a pas eu de vision pour aménager la loi d'une manière logique et compréhensible. Donc, nous avons pensé qu'il était nécessaire maintenant de faire des propositions pour aménager cette réglementation. Et en même temps, c'est dans l'air du temps. Monsieur Lionel Cos, du temps où il était président du
CNH.
CNH a commandé une étude à Henri Bugicazot, donc ça a débouché sur la proposition d'un ordre. Le Gréco aussi travaille beaucoup sur les propositions pour simplifier les règles de majorité en Assemblée Générale, et puis les syndicats eux-mêmes ont fait des propositions. On s'est dit qu'on allait rassembler ces propositions, tout en ayant notre point de vue et faire des propositions complémentaires. Ce n'est pas une révolution, on n'est pas contre les ordres actuels des syndicats ou du CNTGI. On souhaite des réformes et on souhaite que ça soit intégré par les différents intervenants
Alors
de la copropriété.
On va rentrer dans le vif du sujet. Ce livre blanc propose pas mal de choses autour de trois axes. Le premier axe, simplifier la réglementation. Deuxième axe, valoriser les professionnels. Et là, on parle des syndics, ceux qui pratiquent, qui exécutent le droit de la copropriété au jour le jour. Et le troisième axe, recréer la confiance. La confiance, on parle de la relation syndic-copropriétaire et notamment conseil syndical. Alors, le premier axe, simplifier la réglementation. Qu'est-ce que vous proposez ?
Alors surtout, éviter de rajouter des couches réglementaires à la loi existante. Il y a un organisme qui s'appelle le CNTGI qui doit être consulté sur les propositions de loi, sur les réglementations en matière d'immobilier. Et je pense que la première des choses, c'est de conserver toute son utilité à cet organisme, c'est-à-dire de le consulter, de suivre ses décisions, enfin ses préconisations. Ensuite, simplifier les règles, par exemple, en Assemblée Générale, la règle des passerelles, l'article 25, avec une passerelle qui s'appelle le 25.1, l'article 26, avec une passerelle qui s'appelle le 26.1, les copropriétaires, bien que ces passerelles existent depuis plusieurs années, ne comprennent pas toujours grand-chose, parce qu'on passe majorité à l'article 25, on n'a pas la majorité, on passe à l'article 25.1, tout le monde vote pareil et donc la résolution est adoptée. Donc ce qu'on propose, c'est de simplifier cette règle, l'article 25 par exemple, un tiers des votants sont favorables à la résolution et la décision se passe à majorité d'article 24, c'est-à-dire majorité des présents et représentés. Voilà, c'est un exemple. On préconise aussi de réduire le délai de convocation, c'est-à-dire que le délai de convocation actuellement est de 21 jours. Alors c'est une règle du droit romain, hein, le dies acco, c'est-à-dire que le jour de l'envoi de la convocation ne compte pas et le jour de l'Assemblée Générale ne compte pas. Donc c'est pas 21 jours, c'est 23 jours, plus les délais de la poste, on est à 27 jours. Donc on préconise de réduire à 21 jours
à compter de l'envoi. Et l'envoi de la convocation et non pas de sa réception, ça c'est une demande hein, qui est partagée. Peut-être un ou deux autres exemples de simplification.
Eh bien, la simplification par rapport au recouvrement des charges. Hein, simplifier le recouvrement des charges, c'est absolument important. Alors, il y a des règles qui ont été instituées pour les copropriétaires en difficulté. Il faut avancer aussi là-dessus.
D'accord. Vous pouvez.
Et alors, donc, et aussi une modification importante. C'est une réforme du contrat de syndic. Actuellement, le contrat de syndic est un contrat type. On n'a pas le droit d'y changer une virgule. Ce que nous proposons, c'est un contrat socle qui réunit les fonctions régaliennes, on va dire, du syndic de copropriété, c'est-à-dire tenir la comptabilité, tenir la liste des copropriétaires, convoquer l'Assemblée générale, expédier le PV d'Assemblée générale. Donc ça serait le socle. Et puis ensuite, ce contrat type, y ajouter un certain nombre de prestations pré-identifiées. Donc le nombre de visites, le nombre de réunions du conseil syndical, les modalités de gestion des sinistres du contentieux, les honoraires de suivi des travaux. Les honoraires de suivi des travaux ne sont pas prévus dans l'actuel contrat de syndic, donc il faut les voter en Assemblée générale. Les états datés. Et les prêts-états datés, donc c'est aussi des prestations pour un prêt-état daté. Par exemple, il faut faire établir un devis assigné au copropriétaire. Donc,
Oui, l'idée, c'est de revenir, parce que c'est vrai que le contrat type aujourd'hui est un peu comme ça. Hein, on a des prestations dans le forfait, puis après une liste, avec l'annexe 2, des prestations particulières. Mais là, l'idée, ce serait de revenir à quelque chose de plus libéral, c'est-à-dire un contrat socle avec, en gros, l'article 18, hein, des fonctions fondamentales du syndic, et après, plus d'espace de liberté pour rédiger ces clauses.
C'est, hein,
c'est vraiment ça, parce qu'aujourd'hui, on ne ne peut pas, et notamment s'adapter à une petite copropriété. Si on voudrait adopter une forme de co-gestion, aujourd'hui, on est obligé de tricher artificiellement sur le nombre de visites, mettre zéro, ou le nombre de réunions de conseil syndical, mettre zéro. Là, peut-être avoir quelque chose de plus officiel qui engagerait, pourquoi pas, un peu plus le conseil syndical de cette petite copropriété dans une forme de co-gestion de leur immeuble, ou imaginer aussi des aménagements de la loi, du contrat pour les très grandes copropriétés, etc., etc. Mais revenir en tout cas à un esprit plus libéral.
Et donc, voilà un comptoir socle avec deux tiroirs. Un tiroir de prestations pré-identifiées, qui pourrait être celle qu'on reprend du contrat de syndic actuel. Hein, je parle des visites, je parle des réunions de conseil syndical. Et puis un tiroir prestations particulières innovantes. Je pense au service de veille. Chez moi, on a mis en place un service de veille 24-24, 7 jours sur 7. On est obligé de faire voter dans un deuxième contrat une autre résolution. Donc ça simplifierait. Certains syndics, dans les stations de montagne ou en bord de mer, ont des services de conciergerie. Il faut pouvoir, ça peut s'intégrer dans le, ou peut-être avoir un extranet enrichi. Voilà, faire ouvrir le contrat de syndic à l'innovation.
Ok. Deuxième axe, recréer la confiance. Non, valoriser les professionnels.
Valoriser les professionnels. Voilà.
Là, on parle de nous, on parle des syndics.
Alors, valoriser les professionnels, je dirais que on a trois choses importantes. C'est la formation continue. On se rend compte qu'il n'y a pas de formation de gestionnaire de copropriété. Ça n'existe pas, à part les formations qui sont organisées à la GNC, à la LGC. Vous avez une formation qui s'appelle licence gestion de copropriété.
Oui, alors ça, c'est une formation initiale. Mais la formation continue, bon, elle existe, mais elle n'est pas vraiment respectée. Là, le but, c'est de la rendre efficiente.
Nos métiers sont de plus en plus complexes. Le syndic, on le sait, c'est un chef d'orchestre. Il doit connaître la comptabilité, il doit connaître la technique du bâtiment, il doit être un bon communicant et il doit bien connaître son logiciel, etc. Donc il y a beaucoup de choses à savoir et il n'y a pas de formation comme pour un avocat, qui a une formation avec des stages qui permettent d'être un bon avocat. Et nous, on veut avoir des bons gestionnaires de copropriété. Donc formation initiale et formation continue. Alors effectivement, nous avons des obligations de formation continue. Nos collaborateurs ont des obligations de formation continue. C'est 14 heures par an. Donc ça, on les fait. Mais il n'y a pas de contrôle de cette formation continue. C'est pour ça qu'on en vient à une deuxième phase de cette valorisation. C'est la création d'une charte d'éthique et de déontologie des syndics. Alors, il y a une charte d'éthique et de déontologie de l'immobilier.
Un code, oui, il y a un code de déontologie qui existe. Ouais. C'est un décret de 2015 à la suite de la loi Allure 2014 qui fait 12 articles, qui est assez succinct, mais surtout généraliste à l'ensemble des professions de l'immobilier.
C'est assez succinct et on souhaite avoir quelque chose de un peu plus détaillé pour les syndics, qui permettent de revaloriser l'image de marque des syndics. On a un défaut d'image de marque des syndics. Je discutais l'autre jour avec une journaliste qui avait l'air de dire que tous les syndics, je ne veux pas dire le mot, mais tous les syndics étaient des pourris, quoi. Voilà. Donc, non, tous les syndics ne sont pas pourris. Quand on fait des sondages dans nos cabinets, on comprend que 70% des copropriétaires nous font confiance. Et ça se manifeste aussi par la stabilité des portefeuilles. On perd un peu de copropriété. Donc, on sait qu'on fait du bon travail. Mais après, il faut que, dans certains cas où il y a des déviances, il y a une charte de déontologie, qu'on sache ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et derrière, on institue un ordre des syndics. Et c'est l'ordre qui fait respecter la discipline.
Alors, c'est la troisième proposition
c'est
du deuxième
C'est la troisième proposition, voilà. Et cet ordre, il fait respecter la discipline. Il contrôle le respect de la charte de déontologie, il contrôle le respect des obligations de formation, et il peut arriver à prendre des sanctions disciplinaires, avertissements, alors je ne sais pas, avertissement, commandement, jusqu'à l'exclusion de
radiation. Ouais.
Ou radiation.
Ouais. Alors, on pourra refaire une émission complète sur l'ordre. On en a déjà parlé ici plusieurs fois. C'est vrai que c'est une demande récurrente. Je rappelle juste à nos auditeurs qu'actuellement, les cartes professionnelles syndic et les cartes de collaborateurs sont délivrées par les CCI, les chambres de commerce, et que les cartes de collaborateurs sont renouvelées. Là, on l'a vu chez nous au cabinet, sont renouvelées sans vérifier les attestations de formation continue. Donc il y a un certain laxisme par rapport à ça. Un ordre vérifierait l'effectivité de ces formations, c'est 42 heures tous les 3 ans, et vérifierait surtout la bonne application du code de déontologie, éventuellement enrichi par cette charte qui irait plus loin. Parce que je rappelle qu'aujourd'hui, la commission de contrôle du CNTGI, au bout de 11 ans, n'a toujours pas été nommée. C'est donc une coquille vide. Et de toute façon, la loi lui a ôté tout pouvoir disciplinaire. Elle n'a qu'un pouvoir d'instruction.
Voilà, l'ordre, c'est comme l'ordre des médecins, l'ordre des avocats, l'ordre des architectes. Il y a plein de métiers qui ont des ordres. C'est d'instituer au sein du métier des règles, et ces règles, elles sont imposées, elles doivent être respectées. Ce sont des pairs, des gens du métier qui les font respecter. On ne veut pas que ce soit une commission de contrôle qui nous dise...
Surtout qu'il y a des associations de consommateurs dans cette commission de contrôle, ça pose un problème à beaucoup de professionnels. Ouais. Moi le premier, hein, j'ai pas envie d'être jugé par les associations de consommateurs. C'est juste une question de principe. Et troisième axe, recréer la confiance.
Alors troisième axe, recréer la confiance, comme je disais, dans nos cabinets, les copropriétaires sont majoritairement satisfaits du travail. On ressent pas une profonde insatisfaction. Alors, on ressent des tensions parce que c'est la loi des séries. Il y a 10% des copropriétaires qui sont mécontents et c'est ceux qu'on a au téléphone. Donc on a l'impression.
Il n'y a que.
Qu'il n'y a que, mais voilà, dans la majorité, il y a une majorité silencieuse qui est confiante. Mais ça n'empêche pas que pour conforter cette confiance, on propose diverses améliorations. C'est par exemple le livret d'accueil du copropriétaire. Chaque nouveau copropriétaire reçoit un livret d'accueil quand il rentre dans la copropriété. Ça peut être un copropriétaire qui ne connaît pas la copropriété, donc les règles qui s'appliquent dans une copropriété, les textes de loi, etc. Et puis aussi, on préconise une charte des relations avec le conseil syndical. Une charte de relations qui précise ce que dit déjà la loi, c'est-à-dire que le syndic doit consulter le conseil syndical pour la préparation de l'ordre du jour de l'Assemblée générale, du budget, mais ça va au-delà, il y a des règles
de bonne pratique,
il y a des respect de communication. Voilà, le mail, c'est devenu un peu le champ de bataille où les gens se lâchent. Les collaborateurs, les collaboratrices reçoivent des mails souvent incendiaires. Après, quand ça remonte au patron...
Et je rappelle, au sujet de cette charte, donc bon, la NGC, on a participé à la rédaction de ce livre blanc. Cette charte existe déjà. La NGC l'a rédigée en concertation avec une association de copropriétaires qui s'appelle la FNACC, qui a été signée il y a 2 ans et qui a été reprise également par l'UNIS Occitanie et la FNAIM Haute-Garonne du côté de Toulouse, qui l'ont également signée avec les associations de copropriétaires locales. Il faut, et c'est l'idée, ce que pousse ce livre blanc, pousser cette charte, la généraliser, l'enrichir, la faire évoluer, parce que la copropriété évolue, c'est la vie. Mais cette charte, je le rappelle, hein, elle existe et le livre blanc la soutient et cherche à la développer.
L'idée, c'est de la développer et de la généraliser. Et puis, un troisième point qui est important, c'est l'interopérabilité des logiciels. Quand une copropriété change de syndic, il y a une perte d'information, il n'y a pas de transmission des données d'un syndic à l'autre. Ou du moins, le nouveau syndic ne peut pas...
De logiciel à logiciel.
De logiciel à logiciel. Voilà, l'ancien syndic ne peut pas reprendre tout l'historique de la copropriété. Et donc l'idée, c'est une interopérabilité, c'est-à-dire que le logiciel A extrait les données de la copropriété et on les intègre dans le logiciel B du nouveau syndic. Alors ça se fait chez les comptables, les experts comptables, c'est le fichier, ça s'appelle le FEC, fichier des écritures comptables, voilà. On souhaite que les éditeurs de logiciels n'arrivent pas à s'entendre, donc on souhaite que ça soit une réglementation imposée, voilà.
Voilà, et cette idée, pareil, hein, comme vous le disiez, a été poussée du côté de l'UNIS aussi, hein, le livre blanc, l'Institut Janus la prend aussi à son compte pour la pousser, la développer et participer à sa mise en œuvre. On a fait le tour, mais bien.
On a fait le tour, voilà, je tenais à remercier les participants de ce livre blanc. Nous sommes une dizaine de personnes, donc On ne va pas toutes les citer, mais personne très honorable, expert auprès de la Cour de cassation, membre du Gréco, avocat de copropriété, Monsieur Gilles Frémont pour la NGC avec Sylvain Delsalle, des syndics, Daniel Grand, Jean-Louis Labeau qui est président d'honneur de la comité d'éthique de l'FNAIEB, Marianne Martial, qui est aussi expert au tribunal, Hervé Rémignac, qui est un syndic. Et voilà, et nous avons eu le soutien exceptionnel de M. Lionel Cos, qui est ancien président donc, du CNH, et qui est très intéressé, très impliqué dans les affaires immobilières, et donc qui nous soutient pour ce livre blanc et qui en a écrit la préface. Voilà, donc nous le remercions.
Merci. Et donc.
Alors, suite à donner.
La suite. La suite.
Eh bien, la suite, on nous a suggéré.
Mais on comptait le faire quand même.
Une autre personnalité nous a suggéré d'écrire les projets de loi, d'écrire notre code de déontologie, d'écrire nos projets de loi, donc pour la création d'un ordre, pour la modification des majorités en Assemblée Générale.
Et c'est ce le contrat quoi... de syndic. Libéré, délivré.
Voilà, on a encore du pain sur la planche.
Effectivement, Hugues Périnet-Marquet était présent à la présentation de ce livre blanc qu'on a fait fin mai, et qui en forme de clôture, en guise de clôture, mais c'est sa spécialité, les propos conclusifs. Sans qu'on lui ait demandé, il l'a fait spontanément, nous a dit « c'est bien tout ça, maintenant ». Il faut proposer des textes. Je vous remets, et on va le faire, je vous remercie André Périssel, donc je rappelle que vous êtes syndic, agence étoile à Paris, ex-Marseille, et secrétaire général de l'Institut Janus.
Merci Gilles.
Je vous remercie et on passe à la séquence suivante, les As de la CoPro, les experts.
Les As de la CoPro, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.